Bienvenue sur Fréquence Mistral pour la matinale en ce vendredi 26 juillet. Oui, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel et Stéphane du duo Roseway, Rachel Ombrodan et Stéphane Lavenaneda. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Alors, pour cette venue à Fréquence Mistral Digne, parce que vous étiez déjà venu à Fréquence Mistral de Manosque deux fois, vous jouez demain sur la scène de la Gravière. Pour nos éditeurs de Fréquence Mistral Digne, si vous pouvez vous présenter.
Alors moi je suis Rachel, donc flûtiste et chanteuse. Alors tu t'appelles comment ?
Alors je m'appelle Stéphane et je suis là je m'entends bien là. Je suis le batteur et je m'occupe des machines, de tous les samples,
les programmations
du duo.
Et vous êtes ensemble, non pas dans la vie, mais sur scène, depuis combien de temps ?
Deux ans.
Deux ans, ouais, ouais. C'est ça. Ça fait un petit peu plus de temps qu'on travaille sur le projet, mais...
La première date, c'était il y a deux
première
ans,
date.
Très précisément.
À Horizon.
En août.
Exactement.
En août, ouais. Donc 2017.
Et c'était pour ça que vous étiez venu à Fréquence Mistral de Manosque la première fois.
Exactement, ouais, pour présenter le projet.
Donc votre duo a bien évolué depuis, les morceaux se sont étoffés, les premiers morceaux que vous faites ou que vous ne refaites pas sur scène, plus d'autres que vous avez pu faire depuis.
Ouais. C'est ça, on en a quand même enlevé pas mal, on pensait agrandir le set et finalement...
On est crème
petit à petit parce que le style évolue et... Les deux premières années d'un projet, forcément, il y a beaucoup d'évolutions, on s'inspire beaucoup de beaucoup d'artistes, et forcément, ça fait évoluer les choses, et on se rend compte que les premières, que les premiers titres, finalement, ne nous correspondent plus, en fait.
Après, c'était un choix, je pense que tout le monde ne travaille pas comme ça. On a eu aussi la chance, ou en tout cas l'opportunité, de présenter nos morceaux très rapidement sur scène, ce qui fait qu'on a fait évoluer le set sur scène, en fait, parce qu'on a sorti trois premiers morceaux et tout de suite, on a eu 10 dates et on n'avait pas de set. Donc, on a écrit très rapidement et on a pu tester sur scène et auprès du public et voir aussi sur quoi on était plus à l'aise, ce qui marchait bien pour nous et pour le public. Et donc, du coup, notre musique a évolué Ouais, elle s'est façonnée vraiment sur scène, en fait. On n'avait pas préparé un set pendant 2 ans, et après, on l'a mis sur scène, donc voilà, c'était pas figé du tout, donc je pense que c'est ça aussi.
Oui, parce que vos projets, il y a 2 ans, c'était mai,
c'était ouais, ça, c'est ça,
mai,
exactement.
Août,
c'est ça.
Donc ça fait un peu léger, quelque part, pour étouffer.
Mais surtout qu'on pensait pas être sur scène aussi rapidement, en fait. On s'était dit, on se donne un an, on verra ce qui se passe, on écrira peut-être d'autres morceaux. Et en fait, étant donné qu'on a des dates qui sont arrivées...
Et puis en fait, au bout de 6 mois, on était aux États-Unis même.
Donc, oui, c'est ça.
En plus.
Il a fallu travailler
6 mois après,
vite.
On était aux États-Unis et c'est là qu'on a enregistré notre premier single signé sous un label. Donc c'est vrai que oui, ça a été très rapide.
Concentré, oui.
Ouais.
Donc vous avez signé sur un label, ce qui n'était pas gagné d'avance.
Non.
C'est un producteur que vous connaissiez de nom déjà.
Alors, en fait, on connaissait le label et on connaissait surtout les artistes, qui sont des artistes qu'on écoute depuis très longtemps. Donc, en fait, c'était assez incroyable de signer chez eux.
Pour peut-être dire, le label, c'est Ropedo.
Oui.
Ah oui, aucun souci.
On peut faire la pub pour eux. C'est Ropedo Records.
Et les artistes qu'ils ont dans leur catalogue... C'est Ghost Note, Christian Scott, ils avaient Snarky Puppy pendant des années, c'était le premier label de Snarky
lancé,
Puppy,
ouais. C'est eux qui ont lancé Snarky Puppy. Donc,
pour nous, c'était un peu... Après, bon, tout le monde ne s'intéresse pas au label, mais nous, on a connu ce label parce qu'on connaissait les artistes.
C'est un label, disons, pop, jazz, funk, je dirais, donc c'est... Je dirais pas que c'est pas mainstream, c'est plus mainstream pour les Américains, finalement, parce que eux... cette musique, c'est pas une musique qui leur fait peur. En fait, le funk, la soul, ça fait partie de leur
gêne,
quotidien. Hein. Et c'est vrai qu'ici, ça sonne plus. C'est exotique, en fait, ici. Quand on fait du jazz, funk, c'est. Oula, mais c'est de la musique pour musiciens. En fait, là-bas, c'est de la musique que tout le monde écoute depuis qu'ils sont petits, en fait.
Et puis le réseau radio qui est aux États-Unis, tant la côte est que la côte ouest, c'est phénoménal.
Quoi. C'est incroyable. C'est vrai que le réseau radio est assez incroyable. Et en écoutant la radio, enfin souvent j'écoute la radio quand je suis dans la voiture aux États-Unis, et c'est d'une radio à l'autre, ça n'arrête pas en fait. On peut passer d'une radio à l'autre en entendant des choses assez incroyables.
Et très éclectiques. C'est surtout éclectique. Ça. Nous, ce qui nous a marqué, du coup, on fait une digression totale sur le début de l'interview, mais ce qui nous a, enfin moi en tout cas, ce qui m'a marqué, Steph avait beaucoup plus l'habitude d'être aux États-Unis, mais c'est surtout l'éclectisme de la musique et surtout le côté non genré, si on peut dire, de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de cases. En fait, juste là-bas, tu fais de la musique. En fait, on s'en fiche un peu de... Tant que pour eux, ils considèrent que ça fonctionne et qu'il se passe quelque chose sur scène et au niveau musical...
Et que ça leur plaît.
En fait, y a pas, la question du genre n'est pas importante. Et c'est assez intéressant, surtout dans ce pays qui est un pays de contradictions et où le genre est une véritable question là-bas. C'est assez rigolo de voir comme la scène artistique est très ouverte et très... Et foisonnante en fait, et c'est vraiment pour nous, c'est d'aller là-bas, c'est on collecte tout un tas d'expériences, tout est grandiose en fait pour nous, donc c'est assez intéressant.
Et est-ce que les musiciens là-bas sont des musiciens jetables entre guillemets? Si ça marche pas, ils sont vite éjectés.
Oui, je pense quand même.
Oui, mais en même temps ici aussi.
Oui, je pense.
Ici aussi, on a le même problème. Après, là-bas, il y a beaucoup plus de groupes. Je pense que ça tourne plus. Du coup, c'est peut-être plus... Et encore, c'est peut-être même pas plus simple de trouver...
C'est juste que je pense que là-bas, ils ont cet esprit d'entrepreneuriat où le simple fait d'essayer est très mis en valeur. Le problème, c'est qu'après, il faut faire le boulot. Et donc, tout le monde a sa chance. Moi, j'ai cette impression. En tout cas, peut-être qu'elle est fausse, mais j'ai l'impression que tout le monde a sa chance. En revanche, si derrière, le job n'est pas fait, c'est ciao, bye bye.
Là, on est éjecté, oui.
Voilà. Donc, c'est à la fois extraordinaire parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tout est possible. Et en même temps, c'est très dur aussi parce que on est quand même sur un siège éjectable à la moindre...
Moins de fausses notes.
Oui, alors ouais. J'exagère un peu, mais il y a ce côté-là. Mais ce qui fait aussi qu'ils ont cette force de survie qui fait qu'ils sont extraordinairement bons. Je veux dire, c'est pas un mythe. Là-bas, les musiciens sont terriblement bons. Enfin, je pense que c'est un système qui ne souffre pas du tout la médiocrité, du coup.
Oui, mais comme tu dis, Rachel, ça se travaille et le talent se travaille, heureusement. Et ceux qui sortent du lot, ce sont ceux qui bûchent vraiment, qui sont...
Voilà. Voilà. Complètement. Complètement.
Ils ont de toute façon cette culture du travail qui est marrant. Nous, latins, on a tendance à jamais dire qu'on travaille. C'est très, très, c'est très cool de dire qu'en fait, on n'a jamais travaillé de sa vie. C'est un peu, moi, ça me rappelle à l'école, ce mec qui a 18 en histoire. Et en fait, il dit, non, mais moi, je n'ai pas travaillé. Donc, en fait, les dates d'histoire, il les connaît par cœur. Et on a ce côté-là très latin, en fait, de dire qu'on ne travaille jamais. Et là-bas, pas du tout. C'est très valorisé de dire qu'on travaille. C'est quelque chose qui se dit, quoi. Qui dit, moi, j'ai beaucoup travaillé. C'est un truc qui se dit et qui n'est pas tabou, qui est très... Et au contraire, en fait. Donc, c'est marrant.
Et vous avez beaucoup travaillé, surtout pour sortir votre premier EP. C'était en février.
C'est ça. Après, ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de travail, que le gros du travail a été fait à partir du moment où on a joué cette EP sur scène, en fait. Parce qu'en fait, on enchaînait ces dates, on jouait... peut-être toutes les semaines, ou j'exagère un peu, mais toutes les deux semaines. Et dès qu'on rentrait, en fait, d'une date, on faisait une mise à plat, mais un gros...
Ouais.
On disait, OK, qu'est-ce qui va pas? Quels sont les titres qui marchent? Quels sont ceux qui marchent pas du tout? Quels sont ceux qui marchent bien, mais qu'on peut faire évoluer? Donc, on reprenait tout, toute la base. On changeait tout, quitte à même changer des paroles ou garder que les paroles et changer complètement les mélodies. On revoyait tout ça, et c'est ça qui nous a pris un travail énorme. Mais... En 6 mois, ça nous a permis de vraiment s'installer dans ce style, même si on y travaille encore, et je pense qu'on y travaillera jusqu'à la fin de nos jours, mais de vraiment ces 6 premiers mois de travailler et d'évoluer, en fait, et trouver notre style, et aussi grâce aux gens qui nous ont entourés, à la styliste, à la personne qui a pris les photos, tout ça aussi, ça a aidé.
Qui gravite autour du projet, ouais.
C'était pas que musical.
Mais quand même, écrire un EP, c'est pas un EP ou un album, c'est pas si simple, enfin, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont mises en jeu, en tout cas, c'est une partie de soi qu'on montre au monde, si on peut dire, et donc il y a tout un tas de questionnements qui arrivent. Est-ce que ça va plaire? Et ça, c'est horrible parce qu'on a beau se dire Non, je dois dépasser ça, mais il y a quand même ce côté de l'artiste où on est sur scène quand même pour être vu et plaire. Et donc, se dire, est-ce que ça, c'est un style qui va plaire? Est-ce que si je fais ça, c'est un peu trop moi et c'est pas ça qu'on veut voir? Est-ce que... Il y a tout un tas de choses, donc c'est pas... C'est à la fois extrêmement grisant parce qu'on est dans une espèce de création et de chercher vraiment des choses. C'est à la fois aussi très douloureux parce que y a sans arrêt cette remise en question, etc. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que... Donc c'est tout un tas de choses. Mais moi, je trouve que... Et c'est un truc que je dis souvent, c'est que monter un projet et le présenter sur scène, c'est quelque chose de très violent, aussi bien dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que quand on a des retours positifs, c'est extrêmement violent parce qu'on s'y attend pas forcément. Et c'est une charge émotionnelle qui est importante. Et quand c'est négatif, c'est extrêmement violent aussi parce que c'est finalement une partie de nous qu'on a montré. Et donc, mais c'est un... Ouais, c'est ça, c'est grisant, en fait, je trouve.
Et des trois morceaux que vous avez sortis, quel est le morceau qui a le plus évolué depuis que vous le faites sur scène, vous jouez ?
Alors, je pense que c'est « Here Comes the Rain ».
Ouais, c'est vrai.
Qui, je trouve, je serais presque pour... Ah, c'est lui qui fait un... Je ne bouge.
Ouais.
« Here Comes the Rain », on va l'écouter d'ailleurs de suite sur Fréquence Mistraline 99.3.
Thank you.
Alors, ce morceau, It Comes the Rain, eh bien, nous allons en savoir un petit peu plus après avoir eu un petit problème d'interférence.
Oui, en fait, j'étais en train de dire, avant de récupérer mon portable qui faisait des interférences, que ce titre, c'était le titre de l'EP, donc de cette EP de trois titres, qui a le plus évolué et sur scène, en fait. Il a vraiment, je trouve qu'il a vraiment pris son sens et on l'a vraiment intégré après l'avoir enregistré. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça, parce que les gens, du coup, ne vont pas acheter l'EP.
Après, je pense que c'est le titre qui a le plus évolué en termes d'interprétation visible, si je peux dire. C'est-à-dire que moi, au niveau de la voix, etc., je pense l'incarner beaucoup plus. Mais je ne sais pas si c'est le titre qui a le plus évolué, parce que je pense que le titre Stranger, qui traite de la maladie d'Alzheimer, a beaucoup évolué aussi pour nous dans notre façon de la voir, parce que donc c'est le single qu'on a sorti en premier avec un clip, et en fait on a été très émus, parfois bouleversés, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de gens, de personnes qui ont été confrontées à cette maladie, soit leur proche a été touché par cette maladie ou voilà. Et du coup, c'est aussi une chanson qui a résonné chez beaucoup de gens et qui, du coup, nous nourrit aussi, enfin, les expériences. Et on a eu beaucoup de témoignages, ça a été assez émouvant pour nous. Et du coup, je pense qu'aussi de la chanter, maintenant, elle prend aussi un...
Oui, complètement.
Elle revêt aussi tout un côté très universel, en fait.
Mais beaucoup de gens se retrouvaient dans cette chanson, beaucoup d'Américains, un peu partout dans le monde, en fait. Enfin, on a reçu énormément de messages. Et même souvent à la fin des concerts, les gens viennent nous voir. Ouais. Là à Dax aussi, pareil, il y a une dame qui est venue à la fin qui m'a dit « Moi, c'est Stranger, vraiment, ça m'a vraiment touché quand j'ai entendu ce morceau. » Et du coup, elle s'est mise à écouter le reste. Mais c'est ce morceau qui l'a...
Mais c'est vrai que c'est un peu le mal du siècle, quoi, la maladie d'Alzheimer. Et je pense que c'était important pour nous d'en parler, parce que on arrive dans cette trentaine. Et en fait, on a forcément été confrontés à cette maladie, moi en tout cas, pas mes grands-parents, et c'est une maladie qui finalement touche une personne, mais toute une famille, tout un... Et du coup, finalement, c'est très universel, quoi.
Et pour ce morceau, le clip a été un petit peu épique, car c'était tourné en hiver.
Complètement.
Oui. Le 3 et le 4 janvier.
Ouais, 3 et 4 janvier, une scène à Paris, en banlieue parisienne. Et,
dans un bois quand même.
Dans un bois, c'est vrai qu'il faisait extrêmement froid. On avait des chaufferettes de poches de pied partout, surtout la danseuse. Qui avait une petite robe.
Alors
et des chaussons de danse.
Alors moi, je veux pas tirer la couverture, justement, non, aussi, c'est le cas de le dire, mais moi, j'ai quand même ma robe de scène qui a très peu de tissu. Voilà.
C'est vrai.
Et puis après, sur la plage de Cabourg, très beau, hein, mais bon, en janvier, concrètement...
Le 3 janvier, il fait frais.
Il fait frais, voilà.
Vous voyez Cabourg, mais hors saison, c'est pas terrible.
Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de monde.
Mais la directrice, la réalisatrice, nous disait qu'on ne pouvait pas tourner ce clip en été, parce que clairement, vu le sujet, il fallait des couleurs d'hiver, en fait, et que ça n'aurait rien rendu avec un beau soleil et des gens sur la plage
en bikini. En tout cas, ça n'aurait pas été la même interprétation.
Voilà, on n'aurait pas pu faire la même chose.
On l'écoute ?
Donc, on l'écoute.
Stranger. Thank you. Alors, ce morceau Strangers a été écrit dans quelles conditions ? Vous parlez de des problèmes qu'il peut y avoir au sein de votre famille, des personnes âgées. Et ce morceau, vous l'avez écrit aux États-Unis, en France ?
On l'a écrit en France. En fait, on l'a co-écrit. En fait, c'est un morceau collégial et familial.
C'est
parce
familial,
que,
oui.
Parce que il y a quand même très longtemps, le père de Steph, qui est guitariste, donc Jean-Paul Avellaneda, nous avait écrit une balade. Les seules paroles qu'il avait, enfin voilà, il y avait de la musique et les seules paroles qu'il avait, c'est I'm singing a song for you. Ouais. Et en fait, voilà, on l'avait un peu laissé de côté. Enfin voilà.
On a
bien,
c'est sympa,
maquettes,
c'est ça, c'est sympa.
C'est sympa, mais ça nous représente pas. C'était voilà, une balade, ouais. C'était un peu folk, voilà. Et ma mère qui écrit un peu s'est mise en tête de nous écrire des chansons. Elle avait écrit ce texte sur la maladie d'Alzheimer et en français. Hein, et elle nous a dit, bah, je pense que j'ai un thème qui peut être intéressant à traiter. Voilà, je vous ai écrit ça. Faites-en ce que vous en
pareil,
voulez.
Et pareil, ça a mis du temps, on n'était pas...
Et ouais, ça a mis un peu de temps parce qu'on se disait, ouais, est-ce que c'est vraiment intéressant de parler de la maladie d'Alzheimer ? Moi, j'avais l'impression que c'était un peu un truc très personnel pour moi. J'avais pas vu, justement, ce côté universel, quoi. Et en fait, en réécoutant la maquette de Jean-Paul, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est... qui pour nous a été une évidence d'écrire une chanson d'amour, mais qui serait pour cette personne qui finalement a oublié qu'on s'est aimé, à oublier, à tout oublier en fait. Et du coup, il y a quelque chose d'assez naturel qui s'est mis en place. Voilà.
J'ai rien à rajouter, c'était parfait.
Ce morceau, vous l'avez rodé un petit peu de partout. Quand vous êtes aux États-Unis, c'est pas forcément facile d'aller là-bas. Je parle pas pour les conditions, mais pour jouer. Quand vous allez là-bas, vous réussissez à avoir plusieurs dates. Ou c'est simplement le fait d'y aller une fois peut vous forcer un petit peu la chance ?
Alors oui, c'est complètement, de toute façon c'est ce qui s'est passé la première fois quand on est parti la première fois aux États-Unis. C'est Rachel qui a dit en se levant un jour, on va aller jouer à New York.
Voilà.
Et donc c'est parti de là en fait.
Ouais. Et en fait c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que là-bas, alors je pense qu'aussi on est très exotique pour eux puisqu'on est français, donc je prends ça en compte, mais j'ai passé littéralement un coup de fil à un ami trompettiste là-bas et vraiment en 5 jours on avait 2 dates quoi, donc il y a quelque chose de très
ça va vite.
Facile, et il y a quelque chose d'assez agréable, c'est-à-dire qu'en fait on envoie un mail à des programmateurs et on a une réponse dans la semaine.
Ouais, ça c'est assez incroyable.
Et la solidarité entre musiciens,
ouais,
est vraiment
énorme.
Ouais. Et du coup, après ces 2 dates, donc on a fait une collaboration avec ce pianiste américain avec qui j'avais déjà travaillé, qui nous a présenté à ce label. La personne était là, ça lui a plu. Le lendemain, on est rentré en studio, le label a signé, on a enregistré notre premier single qui est sorti sous ce label Ropadope et Infinity Gritty. Et en fait, suite à ça, on a booké d'autres dates, on est reparti.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a joué à New York, les choses se sont très bien passées, mais New York, c'est une scène très particulière, c'est vraiment très jazz, mais vraiment très jazz et très intello. jazz, vraiment. Et en fait, ça s'est très bien passé, hein, mais les gens nous ont dit allez à Los Angeles, ça sera une scène pour vous. Et donc on s'est dit, alors qu'on n'y pensait pas du tout, hein, et on s'est dit, bah tiens, si on allait à Los Angeles. Et donc on a été à Los Angeles et effectivement, ça a été
la révélation.
Pour moi, ça a été une de mes plus belles expériences sur scène. C'est vraiment.
Tu veux dire qu'à Los Angeles, ils sont moins sectaires qu'à New York ?
C'est pas pareil. Alors, il y a le côté aussi, il y a le soleil, il y a les palmiers, tout le monde est très, très cool. Mais vraiment, ça paraît très cliché, mais c'est ça.
C'est vrai.
Les gens fument des joints comme ça dans la rue, tout ça. Donc, il y a ce côté un peu, on se croirait dans une série. Et du coup, effectivement, il y a un côté beaucoup plus cool, en fait. Alors, peut-être que c'est nous aussi dans notre tête, hein.
Non, mais je pense
que les gens font du surf, forcément, ils sont plus cool.
J'y ai passé beaucoup de temps et c'est vrai que c'est beaucoup. Enfin, même avant de monter Rosaway, j'y ai passé du temps et c'est vrai que c'est beaucoup plus tranquille. Et notre musique correspond mieux là-bas. C'est
ouais.
juste simplement. La scène, de toute façon, la scène pop se passe là-bas. Moi, je connais énormément de musiciens habitants, enfin, ou nés aux États-Unis qui sont partis là-bas. Qui sont rentrés dans le milieu de la pop. Un exemple, c'est Stanley Randolph, le batteur de Stevie Wonder, qui a grandi à Memphis, batteur qui vient de la musique religieuse de l'église. Dès qu'il a commencé sa carrière, pop, Los Angeles. Et il y en a plein comme ça.
Mais après, on s'axe beaucoup sur les États-Unis, mais on a eu la chance de tourner en France, bien sûr, d'aller en Italie, d'aller en Angleterre, d'aller en Belgique. Et c'est assez rigolo parce qu'on nous demande souvent, mais pourquoi vous allez à l'étranger ? Ça, c'est vraiment une question qui revient beaucoup. Et en fait, j'ai pas de réponse. Le pourquoi, c'est juste parce qu'on avait envie. Je crois que c'est la plus grosse... Voilà, et c'est aussi, en fait, c'est très intéressant et très formateur parce que... Chaque pays a donc une culture qui lui est propre. Alors aux États-Unis, c'est d'autant plus impressionnant que, en fait, dans un pays, ils ont plein de cultures. Mais chaque pays a sa culture d'écoute, sa culture, sa façon d'être en concert. Et c'est vraiment rigolo parce que quand on a été en Italie, enfin, pourtant, on a l'impression que les Italiens, c'est quand même, on est très proches quelque part. Et c'est une façon d'écouter qui n'a rien à voir. En Angleterre, ça n'a rien à voir, en Belgique non plus. Et c'est hyper intéressant et c'est formateur aussi pour nous parce que finalement, je pense que ça fait partie aussi du travail de l'artiste. C'est aussi de s'adapter à un public et ça nous nourrit aussi d'aller voir.
C'est ce que j'allais dire, ça nous fait grandir en fait. Le fait de présenter notre projet à des cultures différentes, même si, comme dit Rachel, les Italiens finalement, on est très proches. Mais ils n'ont pas la même écoute, pas la même façon de... Et du coup, nous, clairement, ça nous fait grandir.
Et puis, c'est intéressant, quoi. C'est juste se dire que quand même, nous, quand on va travailler... Bon, déjà, quand on va travailler, ça s'appelle jouer. Donc, c'est quand même assez sympa. Et puis, c'est prendre l'avion pour aller jouer à Naples. C'est sympa, quoi. Quand même.
C'est ça.
Et pour écrire un morceau, c'est plus facile d'avoir une inspiration en France, en Italie, aux États-Unis.
Alors, je pense que c'est un tout. Je pense que les inspirations viennent... clairement, on a des inspirations qui sont quand même tournées vers les États-Unis, vers la musique anglo-saxonne.
Ouais, musique anglo-saxonne.
Donc ça, c'est sûr.
Plus que États-Unis, parce que finalement,
il
y a plein de groupes anglais qu'on
adore. Anglais qu'on adore, oui. Mais donc, clairement, l'inspiration principale vient de la musique anglo-saxonne. Mais finalement, tous ces voyages...
Mais oui, mais après, en plus, l'inspiration, là, comme ça, si on regarde au premier plan, vient de la musique anglo-saxonne, c'est vrai. Mais moi, par exemple, j'ai eu beaucoup une culture de chansons françaises, beaucoup, et de culture classique, forcément, parce que j'ai de la musique classique. Et je pense que c'est mon background. Donc, quelque part, j'ai ça aussi en moi. Il se trouve qu'on chante en anglais et que la façon d'appréhender la musique est plus instrumentale, donc beaucoup plus anglo-saxonne finalement, que de la variété française. Mais finalement, c'est un bouillon de culture, quoi, je pense. Mais non, pour en revenir à l'inspiration directe pour écrire des chansons, je pense que c'est plutôt ce qu'on écoute, plus qu'un pays où c'est vraiment... on écoute beaucoup de musique et il y a des fois où on se dit oh, « j'ai envie de faire comme lui ». J'ai envie d'écrire comme lui. Et donc voilà, il se trouve qu'on n'arrive jamais à écrire comme lui. Mais,
et tant
ou
mieux,
elle,
finalement.
Mais ça part d'un truc un peu comme ça, comme les enfants, quoi.
Donc il n'y a pas d'atmosphère particulière qui vous donne des inspirations ?
Non.
Non. Beaucoup de choses, juste beaucoup de choses. Tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit, il n'y a pas de...
Donc toi, Stéphane, tu es batteur, mais tu as programmé beaucoup de choses, des synthés, des
beaucoup de claviers. Ouais, c'est tout. En fait, on avait envie de ce son un peu, ce son vintage, donc beaucoup de claviers, des Rhodes, des Wurlitzer, un Moog analogique que j'ai acheté pour le dernier EP et dont je me sers tout le temps parce que c'est vraiment le son que je cherchais, un son analogique. J'en avais marre du MIDI, en fait, de la création MIDI synthétique des ordinateurs.
Ouais, pour ceux qui savent pas ce que serait le MIDI, oui, parce que je suis pas sûre que tout ce monde sache, c'est ce qui sort de votre ordinateur.
Et juste, c'est des programmations juste ordinateur, en fait, des sons numériques.
Pré-programmés, quoi.
Et en fait, j'avais envie de cette chaleur du son analogique. Donc toutes nos programmations sont faites comme ça, à la maison, et ensuite remodeler pendant les répétitions. En fait, on fait ça presque en live. En fait, pendant les répétitions, je vais coller des parties, je vais réduire, je vais monter, faire les équilibres, je vais changer, je vais interchanger, je vais rajouter des sons, en enlever. C'est comme ça qu'on fonctionne.
Au point de vue technique, ça suppose d'avoir une table beaucoup d'entrées.
Alors, pas spécialement, parce qu'en fait, tout est lié. Ma table de mixage, je rentre, j'ai une connectique, donc du coup, c'est tout numérisé, même si les sons sont analogiques à la base. J'ai tout sur mon ordinateur, toutes les pistes, et du coup, je fais de l'editing directement sur mon ordinateur. Donc finalement,
t'as besoin d'une piste sur la table de façade.
À la fin, quoi. Oui, c'est ça. À la fin, c'est assez simple.
Au niveau musical, moi, je ne parle pas de batterie, parce que batterie, tu as toujours une pléiade de micro.
Oui, alors après, batteristiquement, c'est quand même le projet où, entre guillemets, je me prends le plus la tête. Parce que vraiment, j'essaie de créer quelque chose de particulier qui nous correspond. Et étant donné qu'on n'est que deux, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut quand même remplir l'espace. Mais c'est aussi le fait que ce soit notre projet et mon projet, j'ai envie de vraiment créer des parties très personnelles et un peu différentes de ce que j'ai toujours fait, en fait. C'est même beaucoup de gens me disent « Ah, mais tu n'es pas resté dans le blues rock, ce que j'ai toujours fait. » Et en fait, non, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent, même si, clairement, je suis inspiré et très inspiré de tout ce que j'ai fait, par tout ce que j'ai fait avant. J'avais envie de partir sur autre chose.
Là, demain, vous êtes tous les deux sur la scène de la Gravière au plan d'eau des Ferréoles. Vous allez également avoir d'autres dates, notamment du côté de Rayanne.
C'est ça. On fait un concert illustré à Rayanne donc mercredi 31.
Ça, c'est une belle expérience pour nous, parce qu'il va y avoir un illustrateur, en fait, qui va illustrer en direct le concert. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le fait que ce projet aussi, on le dit peu, mais si on l'a monté aussi, ce projet, c'était pour rencontrer des gens. En fait, on avait vraiment envie de ce côté très choral, d'avoir plein de gens autour de nous, de nous fréquenter plein d'artistes. Mais quand je dis plein d'artistes, c'est-à-dire aussi bien des musiciens que des photographes. Il se trouve qu'on a de la chance de pouvoir faire beaucoup de collaborations avec des photographes. Et c'est un art qu'on aime beaucoup et qui nous nourrit et nous construit, en fait, de se voir dans les yeux de quelqu'un, de se voir réinterprété par quelqu'un. Et là, du coup, on va être avec un illustrateur. On est avec des vidéastes, on essaye de rencontrer beaucoup de gens, parce que pour nous, en fait, finalement, l'art, c'était ça.
Je rebondis là-dessus. La semaine prochaine, on part à Vérone une semaine pour enregistrer notre nouveau
Pour
filmer notre nouveau clip, dont le single sortira le 15 novembre prochain chez Rope Dope Records. Et ce clip va être fait par un vidéaste, un duo vidéaste et une chorégraphe italienne qu'on a rencontré quand on jouait en Italie.
En fait, c'est eux qui sont venus nous voir.
Ils sont venus nous voir à la fin du concert.
Ils nous ont dit qu'il faut qu'on travaille ensemble.
Ça continue l'idée du...
Et ce clip concerne quelle chanson ?
Alors, c'est un single qui s'appelle Walk. Enfin, qui va s'appeler Walk.
Donc, il n'est pas encore sorti.
Il n'est pas encore sorti, on ne va pas en dire plus, mais il sort le 15 novembre.
L'heure tourne, messieurs, dames, et bientôt 10h sur Fréquence Mistral. On écoute un dernier morceau, soit un de vos titres, soit un titre d'un album que vous avez mené, soit Resolve of the Night, soit Vuller, Wake Up Everybody.
Allez, Wake Up Everybody de John Legend.
Ouais.
wake up everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty.
Teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Oh yeah.
The world won't get no better if we just let it be. Again, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the pills. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away?
L'émission avec Rachel et Stéphane va bientôt se terminer. Donc rendez-vous demain samedi 27 juillet sur la scène de la Gravière au plan d'eau au Ferréol. Donc bien, merci d'être venu dans notre studio.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Merci à toi.
Et puis à très bientôt.
À bientôt.
Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze, and the seas are so amazing. Feed them and raise them, seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors, I want us to get by. But we more than consumers, we more than shooters, more than looters. Created in this image so God lived through us. And even in this generation living through computers, only love, love, love can reboot us.
Oh, wake up everybody, no more sleeping.